chose qui vient spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités, moulons de style et de façon. Les petits mangent les verts et les gros les dévoreront. Mais la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de marins, elle est pleine de marins. Tous les gens au Fort Saint-Jean leur font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie. Ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils emportent un bout de Marseille et ramènent un bout d'ailleurs. Des souvenirs à l'appel et le récit dure des heures. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de jolies filles, elle est pleine de jolies filles. Aussitôt qu'arrive l'été, aussitôt que le soleil brille. Bikini, monokini, dénudes de corps des demoiselles. Sous le ciel de Marseille, elles apparaissent encore plus belles. Les garçons tapageurs sont tous de méchants pencheurs. Nos patopes, ghetto blasters, lunettes noires de rigueur. Ils font des matchs de volée et puis des concours de plongée. En bombe du plus haut des rochers. Ils se font cajoleurs, ils se font enjôleurs. Et pour apaiser leurs émois, se jettent à l'eau tous les quarts d'heure. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de pêcheurs, elle est pleine de pêcheurs. Il y a les professionnels et il y a les amateurs, les pros. Pour eux la pêche est un dur labeur, mais pour nous autres les pescadous, la pêche est un vrai bonheur. Si tu veux prendre du sard, il faudra te coucher tard. Mais si tu te lèves tôt, tu peux attraper du fajot. Mais très patient, il faudra être patient. Précis, organisé, toujours être en mouvement. Avoir la meilleure tactique et l'employer au bon moment. Trouver ta position en tenant compte des courants. Quant aux chasseurs sous-marins qui ne craignent que les murennes, il reste cool et serein, il attend que ça provienne. Hey, à la Gachon il est, à la Gachon respiration, à la Gachon il est, à la Gachon fusil à pont, à la Gachon il est, à la Gachon des gros poissons. Il porte beaucoup de plomb, possède de gros poumons, il se prend pour le héros d'un film de Luc Besson.
Voilà, voilà, voilà. Bonjour à toutes et celles qui nous écoutent. Daniel avec vous pour un tout petit moment, enfin une petite heure disons. Aujourd'hui notre ami Lucien n'étant pas là, bon ça ne fait rien, l'émission se fera quand même. Il m'a fait parvenir un petit texte en ce qui concerne le MNLE. Il faut savoir que Lucien est quand même président de cette association. Ce texte, je vais donc vous le lire, il est assez long, mais il est bien d'actualité. Et ensuite, nous ferons un petit tour dans l'histoire et nous verrons ce qui s'est passé dans la France de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire fin 1914 et fin 1945. Voilà, allez, je lance l'émission. En ce qui concerne le MNLE, pour une vraie transition énergétique, économique et sociale, avec l'activité nationale, avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est le PPE, et nos propres activités, où les questions de l'énergie donc, sont très présentes. Notre colloque des 23 à 24 mars dernier, donc l'année dernière, du côté de la Normandie là-bas, moi-même j'y étais, dernier fut très instructif, nous amène à nous positionner officiellement sur cette question de la transition énergétique. Bon, il y a un texte d'orientation qui a été adopté à Pierre-Axomère le 13 octobre 2018, donc ce n'est pas si ancien que ça. Le MNLE, ben, la présentation du MNLE, Réseau Hommes et Nature. L'association a pour objet d'agir pour que tous les humains puissent s'épanouir en harmonie avec leur environnement, un point. Le MNLE a pour objectif développer des coopérations sur la base de projets avec des personnes morales qui partagent les mêmes buts dans le cadre du réseau Homme et Nature. Des conventions peuvent, si besoin, définir les relations réciproques et des adhésions croisées peuvent aussi en résulter. de rechercher, de rassembler, approfondir, enrichir et diffuser la connaissance des causes et des effets réels de tous les phénomènes qui affectent l'environnement, de contribuer à la participation la plus large des citoyens, à la mise en œuvre d'une politique de l'environnement intégrant les propositions qu'ils formulent. L'association intervient dans l'élaboration des décisions, leur application ou leur contestation en tout lieu, au plan national, européen ou international. La définition et la contestation des documents d'urbanisme, PLU, SCOT, est équivalent avec des permis et des permis de construire, font également l'objet de l'activité de l'association, pour ce qu'elle concerne l'environnement et le cadre de vie. Bon, l'aménagement du territoire, l'organisation des transports, l'organisation des circuits de distribution, le commerce équitable, l'activité industrielle, bien sûr, la protection sanitaire, l'amélioration de la qualité de l'air, oui, c'est toujours d'actualité, de plus en plus, des sols, l'utilisation rationnelle de l'énergie font intimement partie de la promotion donc de l'environnement. Lors de notre congrès, nous aurons à définir donc cette année plus globalement nos orientations à partir du document de l'AG20, de l'AG 2014, mise à jour au congrès de Givors, et que nous compléterons de toutes nos évolutions de pensée. Rappelons qu'il organise un 5 axes de réflexion, action basée sur les besoins humains, chers à notre mouvement, se nourrir, se loger, se déplacer, s'équiper, partager. Il s'agit en fait de définir un quotidien souhaité, respectueux de la nature des humains et de leur travail. C'est un complexe, c'est un complet changement de paradigme, remplacer la concurrence et la compétition généralisée et sauvage entre tous par une solidarité constructive, organisant les usages tenant compte de leur interaction avec le climat et la santé publique, respectant la biodiversité et les limites de ressources, etc., foncières ou naturelles. Bon. Les actions locales indispensables ne peuvent seules résoudre l'équation. C'est une réponse globale socio-économique qu'il s'agit d'inventer, ce que nous résumons par produire et consommer autrement. Aujourd'hui, nous abordons le volet spécifique de l'énergie, élément essentiel à la vie, bien commun, partage, rappelons qu'il s'agit de sortir des énergies fossiles et de la production des gaz à effet de serre. En ce qui concerne le constat. En avril 2014, les concentrations de CO2 ont dépassé 400 ppm dans l'hémisphère nord, après une légère baisse jusqu'en 1999. La production de GES s'est remise à augmenter depuis. Or, l'écosystème dans lequel nous habitons, la Terre, est un vaste complexe à équilibre fragile. Le gaz carbonique, un des principaux gaz à effet de serre, avec le méthane, est indispensable au développement des espèces végétales, donc par le biais de la photosynthèse. Mais trop de GES accentue une évolution climatique préjudiciable à la qualité de vie des humains et autres vivants. Nous ne contestons pas les évolutions naturelles de l'univers, grand cycle du climat, mais il est clair que les activités humaines telles qu'elles sont organisées dans notre économie libérale entachent grandement notre milieu, avec ses pollutions tout azimuts, en ville, à la campagne, dans les rivières et les océans. Notre santé, pas seulement la biodiversité, en est perturbée. C'est pour ça que notre prochaine université d'été abordera le thème santé-environnement. Donc c'est cette année. Je n'ai pas encore la date. La production de GES a diverses origines, dont certaines sont naturelles. Mais son accélération est due à l'activité humaine, en cause l'agriculture, le déplacement et le transport de marchandises, les activités industrielles, bien sûr, le chauffage des bâtiments, habitat et activités, et de l'eau chaude sanitaire. À chaque fois, les questions d'énergie, il est indispensable d'agir dans tous ces domaines simultanément et urgentement pour éviter la catastrophe. Il y a un phénomène de stabilité de CO2 dans l'atmosphère qui emballera le réchauffement climatique si l'on réduit drastiquement aujourd'hui nos productions. Un autre constat est que les besoins d'énergie, en particulier électrique, mais pas seulement, ne cessent d'augmenter, parallèlement aux évolutions de mode de vie. La généralisation des ordinateurs et d'Internet pour grosse consommation d'électricité en est un exemple. N'oublions pas les milliards d'individus qui vivent en au-dessous du seuil de pauvreté et pour lesquels il faut produire, malgré tous les efforts nécessaires de limitation des gaspillages. Bah, nous constatons que derrière les mots les grands de ce monde, gouvernement et industrie ne font pas grand-chose. Les conclusions de la COP21 D'ailleurs, nos contraintes ne sont pas appliquées par les États. Pourtant, le GIEC, qui joue un rôle technique sans aborder les questions sociales ni politiques, nous dit qu'il faut se fixer l'objectif de pas plus de 1,5% d'augmentation des températures. Au contraire, nous assistons à la réduction des budgets limitant les possibilités d'isolation des bâtiments entravant le travail des chercheurs scientifiques, alors que les pétroliers recherchent toujours de nouveaux gisements, y compris gaz de schiste et pétrole bitumineux. Les politiques de développement du transport routier, la concentration des habitants en métropole aggravent la pollution. Ainsi, les objectifs de réduction des GES ne sont jamais atteints. Et qu'on ne se trompe pas, si la France affiche officiellement, je précise, des résultats satisfaisants, c'est qu'ils ne sont pas pris en compte. Les produits... Voilà, ces produits pour notre compte à l'étranger et que l'on montre alors du doigt si l'on réintroduit pour chaque pays ce qu'il fait produire à l'extérieur pour ses propres besoins. La Chine serait meilleure élève que les pays occidentaux dans ce domaine-là. Ce n'est pas un bon point pour nous. Bon, quant au débat sur la protection d'énergie, il se résume souvent à l'électricité et à sortir du nucléaire, ou bien par exemple la géothermie, très efficace pour le chauffage des bâtiments. Il faut aussi tenir compte que les énergies nouvelles, renouvelables, sont intermittentes et que la production nucléaire n'offre pas la souplesse des énergies hydrauliques quant à l'adaptation de la production à la demande. Alors, les propositions du MNLE. Si nous ne pouvons que partager la vie de certains pour limiter les gaspillages, nous sommes conscients qu'il faut produire pour satisfaire. Ici et ailleurs, les besoins des humains dont le nombre augmente toujours, mais nous devons toujours produire propre. Des solutions existent dans le domaine alimentaire, les agriculteurs l'ont prouvé dans le domaine industriel, mais aussi avec la notion d'économie circulaire, pourtant dévoyée. Elle aussi, par les industriels, des process moins usants sont développés. Dans le domaine de l'énergie, toujours, la notion de mix énergétique qui semble faire consensus. Il n'y a pas de production d'énergie qui puisse satisfaire tous les besoins à tout moment et qui n'ait pas sa conséquence négative sur l'environnement. Les capteurs photovoltaïques contiennent des terres rares. Ils sont de faible rendement comparé à celui des capteurs thermiques. Les éoliennes consomment beaucoup de béton, c'est vrai, et de métal. Les réacteurs nucléaires produisent des déchets radioactifs. Oui, ça c'est vrai. Certains sont aussi glabres, d'autres non. Nous ferons une émission là-dessus d'ici quelques semaines. Il convient de développer plusieurs filières, en particulier celles ne faisant pas appel donc aux ressources fossiles et ne à vide. Donc retour très rapide de rentabilité, etc., etc. Nous préférons le développement de solutions publiques appuyées sur la recherche fondamentale publique et de la... recherche et développement contrôlés démocratiquement, participation des usagers aux décisions, c'est la seule façon de garantir l'efficacité écologique, donc sociale dans le domaine. Il est urgent de trouver les solutions pour stocker à grande échelle l'électricité, pour compenser en partie l'irrégularité de la production des énergies solaires et éoliennes. Il ne sert à rien en effet d'augmenter sans cesse que les éoliennes, lorsqu'il n'y a pas de vent, quel que soit le nombre, elles ne produisent pas. En fait, les éoliennes, on ne peut pas dire que cela produit beaucoup. Pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'il y ait du vent. Bon. Quand il y a du vent, elle tourne. L'électricité, pour faire simple, pour faire clair, est emmagasinée, puis après redistribuée. Voilà, c'est le but des éoliennes. Mais ça ne remplace pas par rapport ça remplace pas les barrages, par rapport à moi, des barrages hydrauliques. Voilà. Allez, un peu de musique, 2-3 minutes, et je reprends sur le même thème, et ensuite je passerai sur ce qui a été dit. Dans le courant de l'émission, je passerai un petit groupe que j'aime beaucoup, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais dans un petit moment. Allez, un peu de musique.
Around this, that's how it's on. You have to learn to live with it. I am boundaries far away, restrict like those who want us to kick the bucket. Watch it, no, I don't like to be wise and a guide. Try recognize wicked art. I must put you down, burning you with words, power and sound. Yeah, this time, them better realize if you get to use them much.
must recognize who kid out. I must put you down, burning you with words, powers and sound. I'm like Jamun and Sun, beware. Take my stand, always be pure. Or under they stand and don't even care. Hey, I don't change up from the man, give thanks, I'm still here. The water is the dead and rot. Run on them, can't come stabbing on the buck. Can't get caught by me, your wolf fuck.
Voilà, je reprends le cours de l'émission. J'ai quelqu'un qui est à côté de moi, qui ne veut absolument pas parler. C'est un stagiaire qui est à la radio pour quelques jours, je ne sais pas. Enfin, voilà. Bienvenue quand même. Tu as vu comment ça se passe un peu. Bien, sur le même thème, le programme maintenant. Bien, le programme, c'est donc la constitution d'un grand service public, donc de l'énergie. Affranchi de l'économie, donc de marché, il associera avec son personnel et ses organisations syndicales, l'État, les collectivités territoriales, les usagers. Il devra être doté de crédits conséquents, par exemple en réemployant les crédits de la filière nucléaire militaire, inutile et dangereuse. Il aura pour mission de développer des maintenant recherche, réalisation dans les énergies renouvelables, en particulier hydraulique, hydrolienne, marine, turbine, au fil de l'eau, en rivière, bon, sans oublier les barrages hydroélectriques, hein, indispensables pour assurer un niveau d'étiage utile aux humains et à la biodiversité. Bon, les techniques de stockage comme l'hydrogène, le développement de techniques de récupération, chaleur des réseaux d'assainissement, ou rapprochement d'industriels, ayant besoin de calories, bien sûr, de tous ceux qui consomment des frigories, feront partie des missions. Ils devront assurer l'indépendance énergétique de notre pays, ce qui n'exclut pas la coopération entre les pays européens, souhaitable dans un esprit de solidarité et non de concurrence. Voilà. Ce service aura aussi en charge la garantie de sécurité maximum des installations, quels que soient barrages, réacteurs, déchets, réacteurs nucléaires, bien sûr. Accompagner sérieusement la transition énergétique au regard du parc de production existant, retraite, etc. etc. Retraitement des déchets nucléaires, démantèlement des centrales obsolètes, on ne peut pas démanteler une centrale comme ça, c'est pas possible, du jour au lendemain. Avec des personnels compétents sans sous-traitance, reconversion des anciennes centrales à charbon, assurance d'une production suffisante pour satisfaire donc les besoins, lutter contre les gaspillages, en particulier industriels, dans les pratiques de la grande distribution. Emballage jetable, limiter certains usages informatiques, spams, publicité, mais ne pas culpabiliser les usagers et ne pas duire leur qualité. Conditions de vie, modifier les programmes Linky. Alors Linky, ce sont les fameux compteurs Linky, hein, ce qu'on appelle les compteurs espions. Ce sont des compteurs analogiques à très très haute fréquence qui scrutent en permanence les personnes dont les les appartements sont ont ce genre de compteur. En conséquence, aider les collectivités territoriales donc à optimiser leurs services d'éclairage public. Cela suppose de ne sortir du nucléaire que progressivement, à mesure que les autres filières répondront aux besoins, sachant que, quelle que soit la date de sortie du nucléaire, et ce n'est pas pour aujourd'hui, la question des déchets doit être traitée avec le même sérieux. Envisageant la réversibilité, il sera rappelé que les programmes de recherche prévoient de limiter drastiquement la quantité de déchets produits. Développer une vraie politique de transport public collectif partout en France, y compris pour les marchandises, et utilisant l'électricité et l'hydrogène comme énergie, évitant les gaz et les astrocarburants. L'agriculture doit être prioritairement à l'usage de l'alimentation des humains, le ferroviaire et les voies d'eau fluviales ou maritimes y sont particulièrement leur place. Parallèlement, la réduction des distances, circuits de proximité pour les marchandises, rapprochement de domicile, travail, etc., etc., travail pour les humains, etc., etc. Parallèlement, on maintient le développement des infrastructures et des matériels de transport, aller vers le libre accès aux transports publics urbains et régionaux, gratuité, un allègement important des tarifs longue distance, pour les rendre donc plus intéressantes que la route ou l'aérien. Luttera plus efficacement contre le GES que la taxation. Le monde économique sera impliqué dans ce sens. Versement, transport, rappelons que les poids lourds abîment les routes et que nos impôts entretiennent une concurrence déloyale avec le rail. Il faudrait encourager le ferroutage, mais là, croyez-moi, ce n'est pas gagné. Pour ce faire, une vraie politique d'aménagement du territoire est nécessaire, tournant le dos à la métropolisation forcée. Elle permettra aux agriculteurs de produire sain et de bénéficier de tous les services publics nécessaires à la vie en société. Elle limitera la spéculation foncière, bien sûr, et répartira de manière plus équilibrée la population sur le territoire. La participation citoyenne y sera facilitée. Il vaut mieux développer les villes de province plutôt que d'agrandir encore la métropole. 80% des humains en métropole est un non-sens. Afin que le chauffage des existants soit économe et limite drastiquement le recours aux énergies fossiles carbonées, entame une vraie politique d'isolation du bâti habitat, installations industrielles et agricoles, tertiaires, prévoir des aides en subventionnant les bailleurs sociaux en priorité, mais aussi certaines copropriétés sociales de fait, aider les locataires du secteur libre à obtenir des propriétaires le traitement thermique de leur logement, ne pas oublier la filière bois matériaux renouvelables s'il en est dans la mise en œuvre et limiter les chaufferies, biomasse, à ce qu'il est possible de produire durablement, localement, développer les réalisations géothermiques partout où c'est pertinent, essentiellement en zone urbaine, mais aussi en zone rurale avec la géothermie de surface relevée par pompe à chaleur. Toujours sur le même thème, maîtriser les prix des énergies électriques pour les usagers avec pour corollaire moyen d'utilisation des énergies fossiles carbonées. Les ENR en vogue aujourd'hui, intermittentes irrégulières photovoltaïques et éoliennes, ont des amortissements courts qui pèsent sur les prix. Les installations hydrauliques s'amortissent sur le long terme et permettent un meilleur lissage des coûts. Seuls les services publics de l'énergie peuvent développer une politique tarifaire luttant efficacement contre la précarité donc énergétique et assurant l'égalité des citoyens. Développer une vraie politique d'économie circulaire, économie en énergie et limitant la production de déchets en agriculture comme en industrie, accompagner les agriculteurs au changement de pratiques indispensables, suppression des pesticides, très bonne chose, et des intrants chimiques, pratiques seulement des incitations tarifaires, tarifs progressifs pour s'envisager vis-à-vis des industriels et gros consommateurs d'énergie. Confortant notre notion de triple écologie urbaine, industrielle, agricole, incluant la pêche, il apparaît que si la priorité doit être donnée aux énergies renouvelables, les réponses données aujourd'hui par notre monde économique ne sont pas adaptées. Recherchant partout le profit immédiat, les politiques publiques sont seules capables d'investir rapidement en amortissant sur le long terme le contrôle citoyen qui suppose une éducation populaire à la hauteur et des institutions lui donnant toute sa place doit être le garant des choix effectués. Ces choix doivent être basés sur la solidarité, la complémentarité et non la concurrence, ainsi que sur la satisfaction des besoins humains fondamentaux démocratiques. Nous sommes encore en démocratie, il paraît. Voilà. Allez. C'était un petit truc sur le MNLE, quoi. Mouvement nature et l'homme. Allez, un peu de musique. Voilà, je reprends le cours de l'émission. Il est 14h, 14h26, encore une demi-heure d'antenne. Et là, dans le cadre toujours culture-environnement, c'est plutôt culture, nous allons voir ce qui s'est passé en France de l'entre-deux-guerres, 1919-1939. Donc, c'est de date, mais... tout ce qui s'est passé, comment pourrais-je dire, allez, je lance le show. La France de l'entre-deux-guerres. La France est sortie fort traumatisée de la Grande Guerre, qui plombe le pays économique, politiquement et démographiquement. Les Français aspirent donc au retour de la Belle Époque, considérée comme un âge d'or en opposition avec la guerre, devenue un mal absolu. Le régime montre une bonne capacité d'adaptation et semble inébranlable. La République se voit attaquée sur sa droite, mais les idées fascistes restent marginales. Jusqu'à la fin des années 1930, la chute du régime provient de la déroute militaire face au Troisième Reich, due à un réarmement militaire trop tardif et non à la préparation des esprits à la guerre. Le souvenir de l'hécatombe de la Grande Guerre est resté très présent dans les esprits. Donc la France de l'après-guerre. La Grande Guerre constitue un tournant dans l'histoire de la France. Le nombre de militaires disparus est estimé à un chiffre à 1 322 000 de métropolitains sur 790 000 de mobilisés métropolitains. Soit, bon, je passe sur les pourcentages, soit 16,7% de pertes. Voilà. Les troupes coloniales sont légèrement moins touchées proportionnellement à leur échelle. Beaucoup d'hommes disparus par rapport aux 465 000 transportés en France, soit 15,2% en valeur absolue. Les pertes ont surtout touché la catégorie des agriculteurs, qui formait le gros des troupes. En valeur relative, bonne partie de l'élite intellectuelle est touchée. 7 400 instituteurs ont été tués et 41% des élèves de l'école normale supérieure ont disparu. 3 millions d'hommes ont aussi été blessés. Les pertes civiles, en revanche, ne dépassent pas 40 000 personnes. Ces pertes directes se doublent de pertes indirectes dues au déficit de naissance dans presque tous les villages de France. Au moins un monument aux morts est élevé qui devient un lieu de rassemblement et de commémoration. La célébration du 11 novembre devient une fête nationale en 1922. Au niveau économique, les dommages s'élèvent à 34 milliards de francs. Cela fait beaucoup. Au niveau économique, cela fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et 585 000 maisons ont été détruites ou endommagées. Plus de 2,5 millions d'hectares de terrains agricoles doivent être remis en état, ainsi que 62 000 km de route, 5 600 km de bois ferré, etc., etc., etc. Et 19 000 km de canaux. À cela s'ajoute la perte de 23 milliards de francs hors place à l'étranger, bien sûr. 12 milliards sont perdus en Russie, etc., etc. Donc c'était vraiment quelque chose, une époque d'après-guerre qui était très dure. Les forces politiques des années 1920. La guerre a conforté le régime républicain, qui s'est montré capable de mener une action forte dans un contexte difficile. Pour autant, le clivage traditionnel persiste. La droite contre-révolutionnaire à l'époque, l'Action française et la Ligue d'Action française ont été fondées en 1905 autour de la revue du même nom, apparue en 1999 et qui devient quotidienne en 1908. Elle joue un rôle majeur durant l'entre-deux-guerres et bénéficie du prestige de son maître à penser, M. Charles Maurras. Celui-ci pour une monarchie organisée hiérarchiquement et une nation reposant sur la tradition, la langue et la religion. Ce courant synthétisant royalisme et nationalisme reste faible et électoralement, mais exerce une forte influence dans le milieu intellectuel. La droite anti-parlementaire, les représentants de ce courant sont favorables à un pouvoir autoritaire, mais pas une dictature. Ce mouvement préfère la démonstration de rue à la voie électorale. La droite parlementaire, elle est issue de l'origine des républicains, modérés et refusés d'adhérer en 1899-1900 au bloc des gauches. Ce courant reste très méfiant à l'égard du laxisme républicain et rejette toute solution étatiste aux problèmes sociaux. Il y a aussi ce qu'on appelait le centre-droit. Il s'agit de républicains modérés, mais non modérément républicains, selon la formule de Waldeck-Rousseau, qui n'ont pas hésité à s'unir avec les radicaux et les socialistes dans le bloc des gauches face aux périnationalistes. Ils se sont attachés à la laïcité, refusent l'intervention de l'État en matière sociale. Les radicaux, le parti radical s'intensifie donc au régime d'avant-guerre et est favorable au renforcement de l'exécutif et à l'intervention accrue de l'État. En matière économique, ils recrutent essentiellement chez les classes moyennes. Les socialistes la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, se divisent sur les questions de la révolution bolchevique et sur l'adhésion à la Troisième Internationale, fondée par Lénine en 1919. Le congrès de Tours de décembre 1920 se termine par la scission du parti de création de la SFIC, les communistes, la SFIC, section française de l'internationale communiste, née au congrès de Tours, et se rapproche donc de Moscou. Le parti combine l'action illégale, campagne anticoloniale et légale. Élection jusqu'en 1924, il est une force politique plus importante que la SFIO. L'évolution politique, bien sûr, les législatives de 1919 aboutissent à une éclatante victoire de la droite. Le Bloc national qui emporte 415 sièges sur 616. Les résultats sont marqués par un fort renouvellement du personnel politique. 60% des députés le sont pour la première fois, une nette présence des anciens combattants, 44%, d'où le surnom de chambre à bleu horizon, en référence à la couleur des uniformes. En janvier 1920, un monsieur qui s'appelait Paul Deschanel succède à Poincaré, à la présidence de la République. Poincaré, c'était un président de la République. Le Bloc national mène une politique de différence sociale, lutte contre les éléments révolutionnaires et d'apaisement religieux, non application de loi de 1905 en Alsace-Lorraine, etc., etc. Réconciliation avec le Saint-Siège. En 1984, sont les socialistes alliés radicaux au cartel de gauche qui remportent les législatives avec 4,5 millions de voix contre 4,2 millions pour la droite. Les 26 communes, bien sûr, élus votent systématiquement contre le cartel. Le président radical modéré du Sénat, Gaston Doumergue, devient président de la République. Le cartel annonce vouloir retourner à une politique laïque stricte, mais se heurte à une dure opposition qui oblige le gouvernement à reculer sur l'application de la séparation de l'Église et de l'État. En Alsace-Lorraine, de même, les congrégations religieuses qui s'étaient constituées pendant la Grande Guerre sont maintenues. Par ailleurs, le cartel ne parvient pas à résoudre les crises financières. En juillet 1926, elle cède place à l'Union nationale. 1926-1928, dirigé donc par Poincaré, qui stabilise les finances, dévaluation du franc, 80% hausse des impôts directs, etc., etc. 1928 marque le retour de la droite au pouvoir. Si le premier tour des législatives est favorable à la gauche, le second tour voit le mauvais report des voix des radicaux sur les socialistes et l'isolement des communistes. Voilà. Donc tout ceci s'est passé entre les deux guerres. Et tous les secrets n'ont pas encore été livrés. Allez, un peu de musique. Bien, il est 14h35, encore un bon petit moment d'antenne, avant de laisser la place à notre ami qui prendra la relève pour 15h. Nous allons faire un petit tour, voir un peu la condition paysanne en France au 19e, fin 19e siècle. Au début du fin 19e siècle, donc, le paysan, marqué par une permanence des structures sociales et des techniciens agraires, occupe une grande place dans la société française, même si son importance est minimisée par sa politique et sociale. La grande majorité des Français est alors composée de paysans. Le système agricole est encore très fragile et soumis à de nombreux aléas, notamment météorologiques. L'économie agricole est encore en juxtaposition de systèmes régionaux. Au milieu du XIXe siècle, le monde paysan a effectué une première révolution et a connu son apogée. L'agriculture s'est modernisée, le marché agricole s'est unifié. La paysannerie garde un poids important dans la vie politique du pays. Au début du XXe siècle, donc de ce siècle-là, elle semble entrer dans une phase de déclin. Une vaste redistribution des hommes est en cours sur l'ensemble du territoire. L'agriculture n'est plus la seule source de production. Le secteur industriel est en plein essor et la civilisation urbaine pénètre les campagnes. L'exode rural est cependant plus tardif en France qu'ailleurs. Et ce n'est que lors des 32 Glorieuses que la modernisation réelle de l'agriculture, du statut du paysan qui périclite, remplacée par le statut d'exploitation agricole effective. Alors que la France, comme le monde, n'est jusqu'au XVIIIe siècle qu'une immense paysannerie où 90% des hommes vivent de la terre, rien que d'elle, l'évolution de la population agricole. Depuis cette époque, traduit ces révolutions, augmentation continue de cette population jusqu'au milieu du XIXe siècle. En 1789, 18,2 millions de Français vivant directement de l'agriculture représentent 67% de la population totale. En 1846, ils sont 20,1 millions, soit 57%. Longue décroissance, bon, les pourcentages n'ont pas trop toujours se fier à ça. Depuis 1950, en lien avec la révolution industrielle et l'exode rural, 16,1 millions en 1901, soit 42%, etc., etc. Bon, accélération de cette décroissance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Recensement et par-ci, recensement par-là. La paysannerie entre l'ancien régime et la restauration en 1789-1815. Entre la fin de l'ancien régime et la restauration en 1815, la paysannerie va connaître une véritable révolution, tant juridique que sociale. Alexis de Tocqueville, dans son ouvrage sur l'ancien régime et la révolution française, 1956 montre bien que l'œuvre de la révolution fut de libérer le sol pour un moment, ainsi que sa capacité d'entreprendre dans la paysannerie française. La paysannerie de l'ancien régime est marquée par un nombre important de pesanteurs, aussi bien dans le domaine agricole que dans le domaine social. La paysannerie est alors dominée et indépendante. Bon, la révolution agricole du XVIIe est un mythe. L'économie sociale agricole reste donc étriquée. Et l'agriculture n'a pas encore domestiqué la nature, d'où l'hypersensibilité de la production agricole à la météo. Les pratiques agricoles restent traditionnellement jachères, relativement longues, cultures, etc., etc. Et il n'existe pas de véritable marché agricole à l'échelle nationale. Ce n'est qu'une juxtaposition des systèmes agricoles régionaux mal connectés entre enclavements. La Révolution va modifier l'ensemble donc des pesanteurs de l'ordre social qui pèsent sur la France de l'époque. Tout d'abord concernant la propriété de la terre, les paysans n'étant pas, dans leur majorité, propriétaires de la terre, celle-ci constituait un placement, était une source de prestige accaparée par les grands propriétaires noblesse, clergé, bourgeois, bourgeoisie humaine, qui possédaient à peu près 55% des terres agricoles. Donc les paysans étaient des soumis, quoi. Souvent les meilleurs, il faut ajouter le poids des droits seigneuraux et des privilèges qui faisaient de la noblesse rurale la seule autorité. Les paysans qui possédaient peu ou pas de biens propres devaient travailler pour autrui ou par différents moyens, le métaillage, le fermage ou encore par la salariat agricole. Il y avait donc déjà de grandes disparités de conditions de revenus et de statuts à l'intérieur de la paysannerie de l'Ancien Régime. La majorité de la paysannerie était alors modeste et peu instruite. Les relations sociales étaient alors basées sur la communauté paroisse qui était à la fois un secours pour le faible et un frein à la modernisation et sur laquelle pesait la société d'ordre. La crise de subsistance donc de la fin du XVIIe siècle s'est généralisée en 1789. Se combina avec une crise politique. Il y a bien eu une révolution paysanne dans la révolution de 1789. Voilà. Et pour finir, la crise économique de la fin des années 1780 est d'abord liée à une crise en subsidence, généralisée à une crise de paysannerie accablée par les privilèges seigneuraux. On peut constater cet accablement dans les cahiers de doléances remis au roi. Bon, en définitive, tous ces paysans étaient pratiquement aux ordres et sous le joug donc des grands propriétaires terriens. Il est 14h45. Allez, un peu de musique et j'en serai ensuite le groupe qui me tient tant à cœur. Allez, un peu de musique.
Radio Galère accompagne El Mamba pour l'événement du 7 février.
Venez nombreux à 18h à Dar La Mifa, 127 rue d'Aubagne. Lancement d'une campagne d'action contre les politiques qui illégalisent, enferment et expulsent. Merci bien.
Toi, tu fais quoi le mardi soir ?
Je suis à l'écoute de Calibre, de 20h à 20h30. C'est une émission de Libre Antenne sur Radio Galère.
Et ça parle de quoi ?
De corps, d'amour, de sexualité. C'est priorité aux appels.
Tu peux laisser des témoignages ou poser des questions, parler de ce que tu vis.
Alors si tu veux passer à l'antenne, tu peux appeler au 04 91 08 28 10 ou laisser un message au 07 82 02 30 08. Et aussi aller visiter la page Facebook.
Alors rendez-vous chaque mardi de 20h à 20h30, c'est Calibre.
Et c'est sur Radio Galère 88.4.
Donnez-moi un C.
Corps.
Donnez-moi un A.
Amour.
Donnez-moi un S.
Sexualité.
Calibre.
La chercher, oh boy, la trouver, je dois la retrouver, oh papa, je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vue vendre des limaçons. J'ai beaucoup ri les rues, j'entends pas sa chanson. Enfin, mise et Marseille. Montesiez escondida, en famille et Marcia, Bessaitis es perdida. Remontant Canebière, j'ai le cœur qui s'emballe. On l'aurait vu hier, au palais de cristal. Mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades, mais rien pour s'amuser. Thank you. belle affaire. Il faut chercher partout, des collines à la mer. Ça fait un sacré beau, des calanques à la nette. C'est une histoire de fou, ça fait des kilomètres. Je suis sur les genoux. Enfin, misé maxi, monte siège escondu. Enfin, misé maxi, baissez qui s'est perdu.
Mademoiselle Marseille, moi je sais où elle est. Dans la cour de l'école, moi je l'ai embrassée.
Voilà, nous arrivons maintenant au terme de l'émission. Nous remercions toutes celles ceux qui nous ont écoutés et nous vous disons donc à mercredi, mercredi où nous aurons très certainement un ou plusieurs invités. Donc bon après-midi à toutes et à tous et on finit en musique et je lance le générique.
Oh, la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi, ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités, moulons de style et de façon. Les petits mangent les verres et les gros les dévoreront. C'est la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de marins, elle est pleine de marins. Tous les gens au Fort Saint-Jean leur font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie. Ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils en vont.